Laudetur Jesus Christus.
De plus en plus d'enfants sont obligés de travailler au Liban, en particulier des jeunes filles. Une réalité inquiétante, nous retrouverons au début de ce journal notre correspondant à Beyrouth. Le sommet du G7 continue dans le sud de l'Angleterre et la Caritas compte bien faire entendre sa voix. L'organisation lance un appel pour l'annulation de la dette des pays pauvres et la lutte contre le réchauffement climatique. Dans ce journal également, Cuba qui suspend les dépôts bancaires en dollars 2 ans après les avoir autorisés. Et la chasse aux opposants qui se poursuit au Nicaragua. Les évêques du pays appellent le président Ortega à libérer les prisonniers politiques.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour, nous vous en parlons régulièrement dans nos éditions. Le Liban traverse la pire crise politique, économique et financière de son histoire. Ce samedi, à l'occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants, focus sur une réalité dramatique dans le pays du Cèdre. De plus en plus d'enfants, en particulier des jeunes filles, doivent travailler. Paul Ralifet.
C'est surtout dans le secteur agricole que le travail des enfants prend des proportions phénoménales. L'ONG Plan International a noté une augmentation de la main-d'œuvre enfantine de 40 à 61%. Les enfants représentent parfois 30% de la main-d'œuvre totale dans l'échantillon de ferme étudié par l'association, selon la coordinatrice de la protection de l'enfance, Norma Kazan. Colin Lee, le directeur de Plan International pour le Moyen-Orient, tire la sonnette d'alarme. Ce phénomène expose les enfants, surtout les jeunes filles, aux pires formes de travail et menace leur croissance, leur éducation, leurs aspirations et leur bien-être général. Il met en garde contre les risques d'exploitation, le harcèlement et l'explosion du mariage précoce. Des sources libanaises indiquent que le travail des enfants, qui touchait essentiellement les réfugiés syriens, s'est désormais étendu aux régions rurales libanaises. Beaucoup de familles qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts ont déscolarisé leurs enfants pour les envoyer dans les champs. Si la majorité de la main-d'œuvre enfantine est recrutée pour l'agriculture, d'autres sont dans le travail domestique, en usine, dans la restauration, la mendicité ou la vente de rue. Paul Khalifeh, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
Le sommet du G7 continue dans le sud de l'Angleterre et la matinée a notamment été marquée par une rencontre en marge entre les dirigeants français et britanniques. Emmanuel Macron s'est dit prêt à une relance des relations entre les deux pays si le Royaume-Uni respecte ses promesses, celles prises dans le cadre de l'accord du Brexit. Autre sujet abordé au G7 dans les Cornouailles, la reconstruction d'un monde post-pandémie et la Caritas compte bien participer au débat. L'organisation lance un appel aux participants du sommet et avertit « Il est impossible de mieux reconstruire ce monde d'après la pandémie sans annuler la dette des pays pauvres et réinvestir les fonds dans le redressement économique et dans la lutte contre le réchauffement climatique ». L'organisation du Saint-Siège met l'accent sur l'urgence de réduire les inégalités qui se sont creusées à cause de la pandémie. Les détails avec Olivier Bonnel.
La pandémie de Covid a mis une loupe sur les injustices sociales endémiques du monde d'aujourd'hui, déclare Aloysius John, et la seule façon de reconstruire l'avenir doit passer par l'élimination de ces injustices, précise le secrétaire général de Caritas Internationalis. À l'heure où les 7 plus grandes puissances de la planète réfléchissent au monde de demain, la Caritas appelle de nouveau à l'annulation de la dette des pays les plus pauvres, une proposition portée depuis longtemps par le Saint-Siège. Il y a urgence en effet, poursuit l'organisation qui forte de ses 200 branches dans le monde et le témoin d'une aggravation inquiétante des disparités. Caritas prend l'exemple de la Zambie où 45% du budget annuel sert à rembourser la dette massive du pays. Comment un pays peut-il se reconstruire avec un tel fardeau, demande la Caritas. Comment peut-il répondre à la pandémie si les rares ressources disponibles ne peuvent être utilisées pour renforcer le système de santé national? Les pays du G7 sont donc exhortés à faire tout leur possible pour cesser les paiements de la dette aux créanciers privés, à fournir de nouveaux financements aussi bien pour la crise sanitaire que climatique, à favoriser également de nouveaux droits de tirage spéciaux pour mieux permettre aux pays les moins avancés de se financer et à prendre enfin des engagements à ne plus soutenir les énergies fossiles responsables de la crise climatique.
Olivier Bonnel, cet appel de la Caritas est évidemment à retrouver sur notre site internet. Je vous rappelle l'adresse www.vaticannews.va. Deux nappes de pollution repérées dans la mer Méditerranée, à l'est de l'île de Corse, dans le sud de la France. Le plan de protection vient d'être déclenché pour tenter de pomper ces hydrocarbures lourds et limiter les dégâts sur l'environnement. Ces nappes de pollution qui viendraient vraisemblablement d'un bateau qui a nettoyé ses cuves de carburant en pleine mer. Jour de vote aujourd'hui en Algérie pour des élections législatives anticipées. Un scrutin rejeté par le mouvement populaire du Irak. Le chiffre à surveiller sera celui de l'abstention. Elle fut historiquement haut lors de la présidentielle de 2019 et lors du référendum constitutionnel de 2020. Mais cette fois-ci, l'abstention pourrait profiter aux partis islamistes. Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 20h. Cuba suspend les dépôts bancaires en dollars pour protéger son économie et faire face à l'embargo américain. Selon le gouvernement, qui avait ouvert aux Cubains la possibilité d'avoir des comptes en dollars en 2019 dans l'objectif de récupérer dans ses caisses des devises. La suspension des dépôts de dollars sur ses comptes soulève donc des doutes et des interrogations. Les explications avec Domiti Piron.
Pourquoi une telle mesure? Depuis novembre 2019, les Cubains ont la possibilité d'avoir un compte en devises sur lesquels ils peuvent recevoir de l'argent de l'étranger et qu'ils peuvent aussi alimenter en monnaie physique, billets verts, euros, livres sterling. Des comptes bancaires qui permettent notamment d'accéder aux magasins d'alimentation en devises qui sont les mieux achalandés en cette période de crise et de pandémie et qui ont également permis de renflouer les caisses de l'État en monnaie forte. Mais voilà, à partir du 21 juin, les dollars en liquide ne seront plus acceptés. La Banque centrale cubaine explique qu'elle rencontre des difficultés à l'étranger à faire accepter, à déposer, convertir ou échanger la monnaie américaine dans d'autres institutions bancaires ou financières internationales. Cette mesure se justifie donc officiellement par l'embargo américain qui pèse sur Cuba depuis 1962 et dont les sanctions ont été accrues par l'administration de Donald Trump. Mais pour certains, il s'agit plutôt d'une mesure destinée à contrôler le marché noir du dollar. Dans la rue, le billet américain s'échange contre des pesos cubains à plus du double de sa valeur officielle. Cette mesure intervient également dans un contexte de forte dévaluation du dollar sur le marché mondial. Domiti Piron, La Havane, pour Radio Vatican.
L'armée a tué des milliers de civils dans la lutte contre les FARC en Colombie. L'aveu est de l'ancien président colombien Juan Manuel Santos. Des milliers de personnes civiles ont donc ainsi été exécutées et présentées comme des guerrilleros morts au combat. Des faux positifs pour faire monter les chiffres et prouver l'efficacité des militaires dans la lutte contre la guérilla. Le scandale avait été révélé en 2008 et la commission de la vérité en Colombie poursuit aujourd'hui son travail. Pas de graves irrégularités dans le scrutin présidentiel au Pérou. C'est le constat de l'Organisation des États américains qui salue un processus électoral positif. Le ou la vainqueur de la présidentielle de dimanche dernier n'a toujours pas été donné officiellement. La candidate de droite, Keiko Fujimori, a réclamé un recompte des voix, toujours en cours actuellement. Direction maintenant le Nicaragua. À 5 mois de l'élection présidentielle, la chasse aux opposants politiques se poursuit. 5 candidats ont été arrêtés depuis le début du mois, dont 4 en une semaine. Le premier ministre espagnol Pedro Sanchez ainsi que les évêques du pays appellent le président Daniel Ortega à les libérer. Les explications avec Manuela Afigi.
Nous voulons un Nicaragua qui soit libre et démocratique, implorent les évêques, et pour cela, ils demandent au régime sandiniste la fin des restrictions arbitraires et illégales des libertés des citoyens, la fin de la persécution des opposants, des médias, la fin de la situation persistante d'injustice, de l'état de siège et du harcèlement politique. Depuis le Costa Rica voisin où il se trouve en visite officielle, Pedro Sanchez abonde dans le même sens, jouer fair play, libérer les opposants, a-t-il lancé hier à l'intention de Daniel Ortega. L'ancien guerriero au pouvoir depuis 2007, se pave une voie royale vers un 4e mandat à l'élection présidentielle de novembre en faisant le vide autour de lui. Les potentiels candidats rivaux, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro ou encore Cristiana Chamorro ont été arrêtés, assignés à résidence, soupçonnés qui de blanchiment d'argent, qui d'incitation à une intervention étrangère. En guise de représailles, les États-Unis ont pris des sanctions économiques contre plusieurs membres de la famille Ortega. Reste à savoir si elles feront effet. Depuis 2018, l'emprise autoritaire du président sur son pays se resserre et sa probable victoire en novembre devrait la parachever malgré les appels répétés de la société civile et de l'épiscopat à un scrutin libre et transparent où s'exprimerait la volonté du peuple souverain.
Manuela Afigi. Nouvelle journée de tension aujourd'hui à Hong Kong. Cela fait 2 ans jour pour jour que les manifestations contre le quartier général de la police ont été sévèrement réprimées dans un contexte de resserrage de vis par Pékin. Des manifestations prévues aujourd'hui ont été interdites conduite par les autorités, les policiers quadrillent la ville. Les évêques birmans appellent à l'ouverture de couloirs humanitaires pour que des milliers de personnes, en particulier des personnes âgées et les enfants, puissent trouver un abri. Depuis le coup d'état du 1er février, plus de 175 000 personnes ont été déplacées dans le nord de la Birmanie. Le prochain retour de l'information du Vatican, de l'Église et du monde, c'est tout à l'heure à 18h. Vous serez en compagnie d'Hélène Destombes. Très bon week-end.